Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, je suis en compagnie du père de tradition melkite, Charbel Mahalouf. Bonjour père.
Bonjour Sébastien.
Alors vous êtes un habitué de notre émission, vous êtes enseignant à l'Institut catholique de Paris, où vous enseignez l'histoire des pères de l'Église, donc la patristique, et nous sommes ce matin pour évoquer la vie et la spiritualité du grand Grégoire de Nice. Alors c'est un personnage que vous connaissez bien, ce qu'on appelle l'un de ses pères de l'Église, les pères cappadociens. On est particulièrement intéressé à ce 4e siècle où les idées sont en train de se formaliser et certains grands conciles ont réglementé la vie et la foi jusqu'à notre époque. Alors Grégoire de Nice naît en 335 de notre ère dans une petite ville qui s'appelle Néo-Césarée à l'époque, était en Turquie aujourd'hui, et qui est vers la mer Noire. Alors j'ai regardé sur la carte, c'est ce qu'on appelait à l'époque la région du Pont, et là on est juste en dessous de Trébizonde, sur la mer Noire. Alors vous avez travaillé sur cette œuvre majestueuse, vous avez publié en 2017 aux éditions du Cerf une thèse, une mystique érotique chez Grégoire de Nice, je me souviens qu'on vous avait reçu à l'époque. Alors je voudrais commencer par une première question, Père Mahalouf, sur le contexte un petit peu. Donc nous sommes en Cappadoce, nous sommes au 4e siècle. Alors c'est ce grand siècle hein, qui façonne l'histoire chrétienne. Et un empereur, je crois, Théodose, qui est déjà en position. Alors pas au tout début, mais c'est vers
la fin.
La seconde moitié, voilà.
Le 4e siècle du christianisme, comme vous l'avez évoqué, Sébastien, est un siècle très compliqué, très riche, très mouvementé par des hérésies, par même des guerres. Du point de vue politique, nous sommes vers la fin de la persécution, vers l'acceptation du christianisme comme une religion parmi tant d'autres avec l'empereur Constantin, mais justement avec l'empereur Théodose, donc vers la fin du 4e siècle, le christianisme devient la religion de l'Empire. Donc, du point de vue politique, c'est aussi mouvementé parce que il y a des empereurs contre les chrétiens, contre la foi orthodoxe de l'Église, et il y a en même temps des empereurs qui vont soutenir la foi de l'Église. Donc c'est une époque très importante puisque aussi du point de vue de la vie de l'Église et de la foi, nous avons deux grands conciles œcuméniques qui vont quand même impacter toute la foi chrétienne, que ce soit dans l'Antiquité jusqu'à nos jours. D'abord, le premier concile œcuménique en 325, à Nicée, premier. Et puis, le deuxième concile œcuménique, c'est Constantinople premier, avec justement l'empereur Théodose et puis Saint Grégoire de Nice qui était lui-même présent avec son ami Saint Grégoire de Nazianze qui était à l'époque l'archevêque de Constantinople. Donc ce sont des conciles qui ont marqué toute notre foi. Jusqu'à maintenant, nous récitons le credo, que ce soit dans l'église latine ou dans les églises orientales catholiques et orthodoxes, et on se réfère tous au credo de Nicée-Constantinople, quand il y avait un problème doctrinal concernant la divinité de Jésus-Christ avec Arius, et puis après la divinité de l'Esprit-Saint. Donc deux conciles qui vont quand même nous donner le credo, surtout l'article qui développe la divinité de Jésus-Christ, et surtout aussi à Constantinople Ier, la divinité de l'Esprit-Saint qui était en jeu et où les deux Grégoire, surtout Grégoire de Nazianze et Grégoire de Nice, en se référant aussi à la théologie de Saint Basile de Césarée, qui a écrit un traité fondamental sur le Saint-Esprit, pour défendre la divinité de l'Esprit-Saint. Et à partir de là, nous avons le credo et la foi de l'Église, qui est une foi trinitaire.
Alors les personnages dont nous parlons, ils sont au nombre de trois, mais on va précisément s'intéresser à Grégoire de Nice. Bon, il y a aussi Grégoire de Nazianze, et l'aîné de tous de ces deux, qui est Basile de Césarée. Voilà. Alors il y a des liens familiaux entre eux. Grégoire de Nice est le frère cadet de Basile de Césarée. Donc il est vraiment une grande figure à la fois de théologie et puis une figure politique, parce qu'il impose un petit peu sa famille. Il dit à son frère qu'il n'en avait aucune envie. Là, vous allez nous raconter peut-être l'anecdote de devenir patriarche. Il lui dit, mais tu dois venir... Non, d'abord le faire nommer, évêque, alors qu'il n'en avait strictement aucune envie. Il voulait rester dans son monastère, tranquillement, à vivre sa mystique personnelle. Et finalement, il est lancé par son frère aîné, dont on sent que c'est une forte personnalité sur la scène politique locale.
Exactement, Saint Basile, le frère de Grégoire de Nice... C'était la grande figure qui avait marqué ce siècle et qui avait marqué donc la foi de l'Église. Il faut rappeler que au IVe siècle, il y avait ce grand problème de l'arianisme. Arius, qui était par ailleurs un prêtre et qui avait mis en doute la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et Saint Basile, après bien sûr... Le concile de Nicée, la foi de Nicée qui confesse Jésus-Christ comme consubstantiel au Père, c'est-à-dire de la même nature, c'est-à-dire il est Dieu. Et donc Saint Basile va, avec les deux Grégoire, va défendre la foi orthodoxe de Nicée. Contre les Ariens, il faut se rappeler qu'à cette époque, il y avait des évêques Ariens et même... comme je disais tout à l'heure, des empereurs ariens. Et donc il y avait une véritable guerre, non seulement sur le plan intellectuel, sur le plan dogmatique et doctrinal, mais aussi sur le plan ecclésial et politique.
Oui, c'était pas simplement une guerre des idées comme on pourrait le penser aujourd'hui.
Exactement.
Mais véritablement un clivage idéologique, certes, avec des cultures et des traditions différentes.
Et deux camps.
Et deux camps
nous sommes devant
voilà.
Deux camps.
Pour prendre le pouvoir peut-être et pour imposer leur point de vue.
Je dirais, pour témoigner de la foi et de la vérité de la foi, chaque camp était persuadé de l'orthodoxie de son point de vue, de sa façon de penser Dieu, la Trinité, etc. Et donc Basile était le chef de ce camp nicéen qui défendait la foi de Nicée, donc la divinité du Fils de Jésus-Christ. Grégoire de Nice a été sacré évêque par Basile, et Basile à cette époque voulait à tout prix renforcer le camp nicéen. Donc il va consacrer Grégoire de Nazianze, son ami, et son frère Grégoire de Nice. Grégoire de Nice va commencer donc sa vie comme évêque à Nice, qui est une petite bourgade. Il va être déposé par l'empereur Valence, qui était un empereur arien. Et deux ans après la mort donc de Valence, il va retrouver son siège. Et c'est là où Grégoire de Nice, après la mort de Saint Basile, en 379, c'est la date un peu classique de la mort de Saint Basile, c'est Grégoire de Nice qui va prendre le relais sur le plan ecclésial et théologique, et qui va devenir la figure par excellence de la foi de Nicée. Et d'ailleurs, il va devenir un des grands amis de l'empereur Théodose, qui va lui confier plusieurs missions ecclésiales pour régler des problèmes entre les églises à cette époque. Et donc, Grégoire de Nice va jouer un très grand rôle sur le plan ecclésial, sur le plan théologique et sur le plan mystique. Il faut rappeler que le premier ouvrage que Grégoire de Nice a écrit, c'est sur la recommandation de Basile, qui lui demande d'écrire un texte sur la virginité. Rappelons aussi que Basile de Césarée, c'est un des grands fondateurs, organisateurs de la vie monastique en Orient. Et donc, c'est lui qui a fondé avec Grégoire de Nazianze et Sainte Macrine cette communauté dite basilienne. Il a écrit les règles, bien sûr, pour les moines et pour réglementer la vie religieuse. Et puis après, il devient l'évêque. Et justement, avec cette problématique, n'est-ce pas, contre l'arianisme, donc il fallait qu'il se consacre un peu plus à cette tâche de défendre la foi et de vivre comme évêque.
Mais ce qui est extraordinaire dans son parcours, c'est qu'on sent qu'il est constamment partagé en fait entre son rôle politique, donc justement cette lutte du présent contre les influences hérétiques, et d'un autre côté, en fait, il veut juste être seul, qu'on l'ennuie pas, il veut retourner dans son monastère.
Exactement. Grégoire de Nice, il faut le rappeler aussi, il était au départ il a été invité par Basile à venir à Annecy, l'ermitage de la famille où se retrouvaient Basile et Grégoire de Nazianze pour contempler l'écriture et puis pour même écrire, et c'est là ils ont écrit la Philokalie sur Origène. Il a été plusieurs fois, mais il se retrouvait pas dans cette ambiance. Et après, Grégoire de Nice, c'est un des évêques qui vont être mariés. Il s'est marié au IVe siècle. Après, on n'a plus de traces concernant sa femme, Théosébie. Et puis après, il deviendra évêque. Donc, Grégoire de Nice est un peu étrange de ce point de vue-là. Évidemment, à cette époque, beaucoup d'évêques étaient mariés encore. Donc ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que lui qui y a connu le mariage, c'est lui qui va écrire le traité sur la virginité adressé aux moines fondé par Saint Basile. Et donc je trouve ce qui est intéressant dans cette figure, c'est qu'il arrive à articuler les paradoxes un peu dans sa vie, dans ses écrits, et a dépassé un peu beaucoup de problèmes liés à ce paradoxe. Grégoire de Nice donc devient en 371-72 l'évêque de Nice, et à partir de là, il va à la fois s'occuper de cet évêché entre guillemets qui est petit par rapport à d'autres à cette époque en Cappadoce ou ailleurs. Et en même temps, il va se lancer dans l'écriture et il va nous laisser beaucoup de traités dogmatiques, surtout exégétiques. Je rappelle par exemple la vie de Moïse, qui est le premier tome dans la fameuse collection des sources chrétiennes. Et c'était Danielou et de Lubac, les grands théologiens du XXe siècle qui ont lancé cette aventure de sources chrétiennes pour montrer l'actualité de ses pères. Et notamment la théologie de Grégoire de Nice, et d'ailleurs Jean Danielou a fait aussi une thèse remarquable qui a marqué tout le XXe siècle sur la théologie mystique et le platonisme chez Grégoire de Nice.
Alors je voudrais lire un tout petit passage, justement vous évoquez l'un de ces textes de Grégoire de Nice et ce traité sur l'âme et la résurrection qui est absolument extraordinaire, mais juste pour que nos auditeurs sentent la limpidité de son style. Je m'empressais d'aller partager avec notre sœur et professeur le malheur que j'éprouvais à cause de notre frère. Mon âme souffrait d'une vive douleur, se désolait d'une si grande perte, et je cherchais pour partager mes larmes quelqu'un sur qui pèse une tristesse aussi lourde que la mienne. Il va voir sa sœur, je crois. Quand nous fûmes en face, l'un de l'autre, mon chagrin fut avivé de voir notre professeur apparaître devant mes yeux. Déjà, elle aussi, elle était atteinte de la maladie qui menait à la mort. Elle me citait la parole de l'apôtre, selon laquelle il ne faut pas s'affliger au sujet des morts, car c'est là un sentiment propre à ceux-là seuls qui n'ont pas d'espérance.
C'est un beau texte que Grégoire nous laisse. Justement, du point de vue humain, c'est très touchant. Il y a beaucoup d'émotions dans son style. C'est un mystique Et c'est là où il va, justement, dans cette description de la fin de vie de Macrine, nous montre à la fois son humanisme, mais en même temps l'espérance dans la vie éternelle. Et c'est là où il décrit Macrine comme une sainte éprise par l'amour divin. Et il utilise le terme Eros, par l'Eros divin, céleste, pur. Et il montre la figure de Macrine comme une mystique amoureuse du Christ et qui justement attend ce passage vers la vie éternelle, vers la rencontre avec le bien-aimé.
Alors vous êtes un chercheur, vous êtes un prêtre avant toute chose, vous enseignez aussi. Quel plaisir est le vôtre à transmettre ces messages du IVe siècle ?
Le plaisir, c'est d'abord de tracer ce chemin de foi qui est un chemin à la fois qui parle au cœur et à l'intelligence. Ce qui me frappe toujours en travaillant les pères de l'Église, en général, non seulement les Cappadociens, Grégoire de Nice, Grégoire de Nazianze et Basile de Césarée, c'est cette grande culture. Grégoire de Nice est imbibé de la culture philosophique. Et même son style, que dans tous les traités, que ce soit exégétiques, mystiques ou doctrinaux, montre cette influence de la philosophie grecque, de la culture grecque, la culture ambiante, sur son style, sur sa façon de voir les choses. Et donc, ce sont des penseurs qui ont dialogué avec leur culture chrétienne, mais aussi avec la culture ambiante. Grégoire de Nice, il n'est pas le seul, est une grande figure qui a développé ce dialogue avec les philosophes païens, les philosophes grecs. Et ce qui est intéressant, c'est justement en récupérant certaines notions, certains concepts, certaines expressions philosophiques, Grégoire de Nice va les christianiser en fonction de la révélation biblique, de l'exégèse biblique et de sa lecture, la contemplation de l'écriture. Ce qui fait que ces penseurs sont à la fois des grands connaisseurs de leur temps, de leur culture, mais aussi de l'écriture et de la foi chrétienne. Et je pense que le message par excellence de Grégoire de Nice, c'est que la foi doit interpeller la raison. Et la raison doit interpeller la foi. Il n'y a pas de foi sans raison. Il n'y a pas de raison sans foi. Voilà un des grands messages de Grégoire de Nice. Et deuxième message, il y en a plusieurs, mais sur la mystique, la foi chrétienne est une démarche spirituelle. Évidemment, il y a un côté politique, comme nous l'avons évoqué, surtout avec Basile. Et on voit aussi les deux tempéraments qui sont différents. Mais pour Grégoire de Nice, la démarche chrétienne, la foi chrétienne, est une démarche spirituelle avec le Seigneur. Il l'a montré dans son traité sur Sainte Macrine, dans le dialogue sur l'âme et la résurrection, dans la vie de Moïse, mais aussi dans un des grands ouvrages de Grégoire de Nice, qui est à la fois exégétique et mystique, le Cantique des Cantiques. C'est là où Grégoire nous laisse un chef-d'œuvre.
En quelques mots.
Sur justement la mystique et l'exégèse, puisque c'est le livre le plus petit dans la Bible et qui évoque bien sûr l'amour. Et donc Grégoire de Nice développe justement à partir de cette exégèse allégorique, symbolique, toute une mystique pour montrer que toute la démarche chrétienne, qui est évidemment une démarche communautaire, personnelle, ecclésiale, qui doit être fondée sur les bases et les dogmes chrétiens tels qu'ils ont été formulés par les conciles, n'est-ce pas ? Mais en même temps, tout cela est une démarche spirituelle, amoureuse avec le Seigneur. Le but, c'est de devenir un avec le Seigneur, comme il le dit dans la première homélie du Cantique des Cantiques, où il montre l'époux et l'épouse, le fiancé et la fiancée du Cantique. L'époux, c'est le Christ, qui est l'époux divin, comme il le dit, et la fiancée, c'est l'âme humaine, tantôt l'âme humaine, tantôt l'Église. Cela veut dire que la foi chrétienne est justement cet échange d'amour, de vie, entre le Christ et l'être humain. Et je pense, le message mystique, évidemment, le terme mystique, il faut le préciser, c'est pas ésotérique, c'est vraiment spirituel, c'est entrer dans le mystère, hein, de Dieu. Et cette entrée dans le mystère de Dieu ne se fait que à travers une conversion, à travers une vie sacramentelle et une vie de prière et de contemplation de l'Écriture. C'est ainsi que Grégoire de Nyssa reste pour nous aujourd'hui un grand témoin de son siècle, de toutes les problématiques, les questions, les formulations dogmatiques, de ce dialogue avec la culture grecque, donc on peut dire cette inculturation de la foi déjà qui se passe au IVe siècle à travers ces grands penseurs, ces grands auteurs, ces grands pères de l'Église, et surtout il nous montre que le chemin de la foi est un chemin mystique, un chemin spirituel qui doit être centré sur cette rencontre amoureuse de entre Dieu et l'homme. Et je termine par nous sommes toujours dans la fête de Noël, et Grégoire de Nyssa, comme le montre d'ailleurs un grand théologien du XXe siècle, Balthazar, dans son écrit « Présence et pensée », l'incarnation, nous dit Balthazar en interprétant Grégoire de Nyssa, est le point de démarcation de toute la foi chrétienne, surtout par rapport à la philosophie grecque. Pourquoi ? Parce que pour la foi chrétienne, c'est Dieu qui devient homme. Et c'est là toute l'originalité, peut-être aussi toute la difficulté pour la raison humaine de comprendre cela, mais c'est un point de démarcation par rapport à la philosophie grecque et toutes les philosophies et toutes les religions. C'est pour cela, Grégoire de Nyssa, tout en contemplant l'incarnation du Seigneur dans toutes ses œuvres, il nous dit « c'est le mystère, le plus grand mystère de la foi chrétienne, où Dieu cherche l'homme ». Et ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, c'est d'abord Dieu qui cherche l'homme par amour pour se révéler à l'homme et pour se laisser désirer et aimer par l'être humain.
Cher Belmalouf, j'étais très heureux de vous avoir ce matin dans notre émission Chrétien d'Orient, et après notre très très belle émission sur Noël il y a quelques jours. Je voudrais remercier François Coninck, Claire Poinsignon et Pierre Monteil pour la réalisation et la technique de cette émission. Nous retrouvons maintenant sur France Culture le service protestant. Bon dimanche.